La Louisiane a beau être une ancienne colonie française, on a du mal à l'imaginer comme différente du reste des États-Unis. Pourtant, ce territoire, acquis en 1682 et qui doit son nom à Louis XIV, conserve des traces de l'ancienne domination française. Au XVIIIe siècle, cette immense colonie s'étend des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique, bien loin de la taille actuelle de la Louisiane. La France est obligée d'abandonner ce territoire stratégique aux Espagnols en 1762, à la suite de la défaite de la guerre de 7 ans. À cette occasion, la France perd aussi le Canada, ou la Nouvelle-Acadie, au profit de la Grande-Bretagne. Les Acadiens se réfugient alors en Louisiane, sans savoir que le territoire n'est plus sous autorité française. En 1800, Napoléon obtient des Espagnols la restitution de la Louisiane, en l'échange d'une promesse de non-agression qu'il ne respectera pas. Les États-Unis lorgnent depuis un certain temps déjà sur la Nouvelle-Orléans, qui leur permettrait de contrôler le golfe de Mexico. Dès que la Louisiane redevient française, le président Jefferson entre en pourparlers avec Napoléon. Ce dernier propose à Jefferson de lui vendre non seulement la ville, mais également l'État entier, doublant ainsi la taille des États-Unis pour seulement 15 millions de dollars. Les États-Unis n'ont alors que 10 millions en banque et se voient forcés de réaliser le premier emprunt de l'histoire du pays. Ces changements de domination n'entaillent pas la présence française aux alentours de la Nouvelle-Orléans. À tel point que de nos jours, certains Américains croient visiter une ville typiquement française quand ils s'y rendent, et ce bien que la majeure partie de la vieille ville ait été construite sous domination espagnole. Pour leur défense, l'onomastique de la région reste bien française, rendant la prononciation de certains lieux difficile pour la majorité de la population. Imaginez un Américain tentant de vous indiquer le lac Pontchartrain sans en massacrer le nom. En réalité, malgré l'acquisition par les Américains, le territoire reste longtemps partagé entre une population strictement européenne et une population anglo-américaine. Cela se voit jusque dans les rues de la Nouvelle-Orléans, où le vieux carré, tout coloré et à l'habitat plus petit, s'oppose au Garden District et à ses grandes maisons blanches. Au XVIIIe siècle et au début du XIXe, la population du vieux carré est en fait considérée comme créole. Être créole, c'est alors venir d'une famille qui n'est pas née sur le sol américain. Ainsi, une famille allemande sera tout aussi créole qu'une famille venue d'Haïti. En Louisiane, la plupart des créoles sont, bien entendu, français. L'organisation de la société et des plantations est différente chez les créoles et les anglo-américains. Les premiers ont le plus souvent une maison en ville où ils passent la saison hivernale. Les seconds considèrent au contraire que leur plantation est également leur demeure permanente qui doit refléter leur richesse. Apparemment, dans la société créole, la discrimination se faisait avant tout en fonction de la classe d'origine et non de la couleur de peau. C'est le contraire dans la société anglo-américaine. Vers la moitié du XIXe siècle, les planteurs américains sont près de 10 fois plus nombreux que les planteurs créoles. Ces derniers tentent de résister à ce qu'ils voient comme une invasion, en interdisant par exemple à leurs enfants de parler anglais, car une langue aussi brutale leur casserait la mâchoire. Ils préfèrent même, parfois, rentrer en France. Mais la conception américaine de la société l'emporte, et avec elle le sens de l'adjectif créole, qui en vient à désigner des personnes dites de sang mêlé, dont l'origine est à la fois africaine et caucasienne. Cette distinction permet de désigner comme noir, et donc comme potentiel esclave, des personnes qui n'ont que 1/64 de sang noir. Voilà donc les Français qui disparaissent peu à peu de Louisiane. Et en 1916, le gouverneur décide qu'il faut renvoyer chez eux les enfants qui parlent français à l'école. Cependant, non loin de la Nouvelle-Orléans, un pays résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est le pays Cajun. Souvenez-vous, les Acadiens étaient allés chercher refuge en Louisiane après l'acquisition du Canada par la Grande-Bretagne. Ces Acadiens se fondent dans la population locale, en partie française, et se font peu à peu appeler Cadiens, puis Cajuns. Le pays Cajun, célèbre pour ses bayous, de terribles marais remplis d'alligators, pour sa nourriture, encore des alligators mais aussi des écrevisses, et pour sa musique, plutôt de l'accordéon cette fois, le pays Cajun, donc, est né. Le pays Cajun est assez isolé des grands centres urbains, et en conséquence, le français y est conservé comme langue depuis le XVIIIe siècle jusqu'à la moitié du XXe. On peut encore aujourd'hui y rencontrer de vieux guides qui parlent leur langue maternelle. Ainsi, Norbert Leblanc, 76 ans, guide sur le lac Martin, n'a appris l'anglais qu'à 12 ans, à l'école. Il n'a quitté son bayou que 4 ans, pour Metz, où il a stationné comme traducteur après la guerre. Son français est tout à fait compréhensible, mais il est teinté d'un bel accent québécois, de R roulé et d'expressions qui paraissent conservées depuis le XVIIIe siècle. Pas d'inquiétude cependant, nos insultes restent exactement les mêmes. De nos jours, le français est de nouveau à l'honneur en Louisiane, qui se veut fier de ses origines. Ainsi, Pour acclamer leur équipe de football américain, les Saints, les supporters n'écrivent pas le verbe « go » dans l'acclamation « Go Saints G-O », mais « G-E-A-U-X » pour avoir l'air plus français, sans savoir évidemment que cela ne se prononce pas ainsi. L'enseignement du français revient également à la mode, mais le problème actuel est celui de l'origine des professeurs. Les écoles hésitent à faire appel à des Français canadiens, plus proches de l'accent cajun, ou à des Français de France.